La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
La période de croissance que vous avez connue est une période anormale dans l'histoire. On ne peut pas doubler chaque 10 années la consommation d'énergie. Parce que si vous marchez pendant 3 siècles, en doublant tous les 10 ans la consommation d'énergie, au bout de 3 siècles, celle-ci sera multipliée par 1073 millions. Alors, qui sont les fous ?
Grand témoin du XXe siècle, René Dumont a parcouru le monde pour le comprendre et le changer dès les années 30. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il participe au plan Monnet et développe l'agriculture intensive pour donner à manger aux Français. Mais 30 ans plus tard, après avoir visité plus de 50 pays, le tiers-mondiste comprend l'importance de la crise écologique et son impact sur la production agricole. René Dumont remet alors en question son titre de premier productiviste de France et devient le pionnier de l'écologie politique. Au son de nos archives, je vous propose de découvrir l'itinéraire méconnu de cet agronome de la faim, en compagnie de son biographe Jean-Paul Besset, que nous avons rencontré au cœur de la région Auvergne, où il vit en pleine nature.
1 million d'enfants assassinés dans le tiers-monde par le système économique dominant, on n'en parle pas.
Aujourd'hui, on en parle avec vous.
Oui, mais trop peu.
Une première question très simple, Jean-Paul Besset. Quelle place a René Dumont dans votre vie ?
Ah, c'est une question un peu personnelle, parce que René Dumont a une place, je crois, très importante dans l'histoire, avec un grand H, qui a traversé ce siècle, enfin le siècle précédent. René Dumont m'a en quelque sorte converti à l'écologie. Il a été un des déclencheurs, pas le seul, mais ça a été une des rencontres les plus importantes dans mon parcours intellectuel, disons, dans ma vision du monde, dans ma représentation du monde. Son expérience, ce qu'il disait, et le rapport un peu personnel que j'ai pu avoir avec lui en travaillant sur lui, amical, m'a beaucoup influencé. Beaucoup. Il a correspondu à ce grand tournant de l'époque, enfin, ce que je considère être le grand tournant de l'époque, à savoir, tout d'un coup, l'intrusion dans la pensée humaine de la préoccupation écologique, qu'il a lui-même découverte. Il n'est pas né écologiste, loin de là, même s'il avait un rapport à la terre, aux choses naturelles très, très fort depuis son enfance, mais il était classé parmi les grands productivistes agricoles. C'était un agronome pour la production, et dans sa tête, production, ça voulait dire nourrir les gens, nourrir en particulier tous les affamés de ce qu'il appelait le tiers-monde, l'écrasante majorité de la planète. Et il a, d'un point de vue très expérimental, il a rencontré la crise écologique, la crise climatique, la crise de la biodiversité, la crise de l'eau, l'avancée du désert, la baisse des rendements agricoles et les conséquences sur la paysannerie du monde, qui était la partie de la population mondiale la plus importante, et qu'il demeure d'ailleurs. Il a vu toutes les conséquences de ça, et peu à peu ses yeux se sont ouverts sur cette nouvelle réalité qu'il a intégrée à sa vie, qu'il a intégrée très tard. Dumont est devenu écolo à l'âge de 70 ans quasiment, et il a fait une espèce de révolution copernicienne de sa pensée, de son action, de ses recommandations, qui était non pas en contradiction avec ce qu'il pensait profondément, puisque ce qu'il a toujours animé, c'est d'être cet agronome de la faim, de lutter contre la famine, de nourrir la terre, de trouver les meilleures techniques pour nourrir les gens. Les inconnus du tiers-monde, ces milliards d'êtres qui n'ont que leur houe pour cultiver la terre. Et il s'est aperçu que tout ça devait être remis en cause par le choc de la crise des ressources naturelles.
La voix de René Dumont dans La marche du monde, un homme dont le désir le plus cher a toujours été de parcourir le monde.
Mon désir, voir, connaître et comprendre le monde dès l'âge de 12 à 15 ans. Donc je suis parti, j'ai fait l'agro, et ma première sortie a été le Maroc en 1923, à 19 ans. Ma première étude a été l'étude des agricultures du Maroc, ensuite de Tunisie. Et ensuite j'ai choisi l'Indochine comme carrière pour justement voir, connaître et comprendre le monde. Si on voulait voir le monde, c'était la carrière coloniale qui s'imposait.
La carrière coloniale s'imposait, nous dit René Dumont. C'est un homme du XXe siècle, vous l'avez rappelé. C'est un homme qui est jeune dans les années 20. Comment vous expliquez cette envie, ce désir dont vient de parler René Dumont, d'aller découvrir le monde ?
là, il y a un virus intérieur. il a toujours été passionné par l'intérêt général. Et pour lui, l'intérêt général, c'était d'abord l'intérêt de ceux qui ne mangeaient pas à leur faim. Cette envie de découvrir le monde, ce n'est pas tant l'envie de voyager. Il avait quelque part des semelles devant. Il avait un côté nomade. Il adorait bouger. Mais on ne dira jamais assez que Dumont, qui a une image un peu de provocateur, d'aventurier, etc., d'abord et avant tout, était un homme pragmatique qui recherchait des solutions pour que les gens, hommes, femmes, enfants, mangent à leur faim.
J'ai décidé, par manque d'imagination peut-être, de suivre la carrière paternelle, mais de la suivre différemment. Mon père fut professeur d'agriculture à Cambrai pendant 25 ans dans le Nord. Moi, j'ai décidé de connaître le monde. C'était ma seconde préoccupation. Connaître le monde, en 1929, c'était fonctionnaire colonial. Il n'y avait guère d'autres moyens. Il n'y avait pas de charter qui vous emmenait pour des prix réduits à Bangkok ou au Pérou. Et j'étais agronome colonial, mais j'ai vu bien vite que je ne pouvais pas rester complice du fait colonial pendant longtemps. Il y a eu une famine non secourue dans la province de Vine parce qu'il y avait eu une révolte, les soviets d'Ingéan en 1930. Comme c'était une des provinces où je devais exercer mes fonctions, j'ai décidé de quitter et rentrer en France. Comme là encore je manquais d'imagination, je suis retourné à l'Institut agronomique où j'avais été élève, mais cette fois-ci de l'autre côté de la barricade, et ça a duré 41 ans, de 1933 à 1974. Au bout de 41 ans, ils ont trouvé qu'ils m'avaient assez vu, ils m'ont prié de passer la porte.
On entend bien, ce n'est pas d'abord pour aller voir la pauvreté qu'il part, c'est justement parce qu'il part en tant qu'agronome qu'il va faire une carrière dans les colonies, puisqu'il est un enfant de l'Empire français, qu'il découvre une réalité qu'il ne connaît pas, d'autant qu'à l'époque, en Indochine, la colonisation est extrêmement dure à l'égard des paysans indochinois. Jean-Paul Bessé.
Absolument. D'ailleurs, quand il arrive au Tonkin, on vient le chercher au bateau, et un fonctionnaire colonial dégageait les gens avec une espèce de petit bâton pour faire la place. Et il lui a arraché sa badine, sa baguette, il l'a balancée dans une rivière. Il ne supportait pas. Il avait déjà ce sentiment d'une fraternité universelle à construire. Il voulait déjà se sentir utile. Ce n'était pas seulement une découverte technique, ça a été une découverte technique. Il a fait le premier grand livre sur le riz, culture du riz dans le Tonkin, qu'il a fait relire très attentivement par sa maman, qui lui a corrigé toutes ses fautes d'orthographe et tout ça. Ça a été son premier ouvrage.
Pour mieux comprendre qui est René Dumont, c'est intéressant de se pencher sur la façon dont il travaille sur le terrain.
Son outil principal, disait-il, c'était son pifomètre, le pifomètre Dumont. Et surtout, il écoutait les gens, et il écoutait les paysans, ceux qui étaient au champ. Il se fait aussi tailler, quand il arrive quelque part, tout au long de sa vie, un bâton. C'est ces bâtons qui aident à marcher, de tradition rurale, dans le bois du pays, et dont m'a toujours dit qu'il se servait pour taper un peu les fonctionnaires des villes. Mais il va sur le terrain, et Dumont était un homme de science. Il savait, sur n'importe quel champ, dans n'importe quel terrain humide ou aride ou semi-aride, il savait ce qui pouvait pousser, ce qui avait poussé et ce qui ne pousserait jamais. C'était le pifomètre Dumont. Une espèce de méthode expérimentale de terrain, fondée sur le terrain. Il a fait des milliers et des milliers de carnets de notes sur le terrain, des archives impressionnantes. Mais il passait par le détail. Par le détail de l'expérimentation, il ne partait pas avec des idées préconçues. Il n'aimait pas les discussions avec les universitaires, les experts et les fonctionnaires dans les villes. Il voulait aller dans les villages et il demandait, la seule condition qu'il posait pour aller dans les villages, c'est que le village ne soit pas balayé avant qu'il arrive.
Écoutez RFI, la marche du monde.
En ce qui concerne le rapport de René Dumont à son métier, vous diriez, il part en Indochine donc, pour démarrer sa carrière en tant que jeune agronome colonial. Il revient finalement dans quel état d'esprit ?
Quand il est en Indochine, il y reste 3 ans je crois, il se débrouille pendant ses vacances, parce qu'il avait des vacances, pour aller en Chine. Voilà un homme qui a connu l'empereur de Chine, enfin, avec dans un train attaqué par les bandits, enfin, etc. L'aventure. Il trouve là, en Indochine, c'est sa première expérience, l'Asie, qui restera d'ailleurs sa plus grande expérience. Le riz, on ne connaissait pas en France à cette époque-là. On ne connaissait pas le riz. Il importe le riz, il découvre le riz, il découvre une autre, une nouvelle céréale. Et il travaille dessus, évidemment. Il observe les techniques. Il vient, lui, pour apprendre. Apprendre d'eux et essayer d'intégrer ça dans des méthodes de culture contemporaine.
Jean-Paul Besset, si René Dumont est un enfant de la Première Guerre mondiale, il ne voudra pas se battre lors de la Seconde Guerre mondiale.
À cause de la souffrance qu'il a vue. Il faut voir, quoi. C'est un gamin, c'est un jeune adolescent qui voit les gens mourir autour de lui, qui partagent leur souffrance. Et ça, c'est une imprégnation d'enfance fondamentale pour lui.
Comment fait-il pour ne pas faire la guerre ?
René Dumont a été réformé après une grave maladie qui l'avait profondément atteint pendant son service militaire. Et ensuite, ce pacifisme fondamental, qui est constitutif du bonhomme, qui plonge ses racines dans cette enfance, ça sera sans doute son seul dogmatisme. Dans la vie. Il était prêt à toutes les audaces de ce point de vue-là, mais le pacifisme, pour lui, était une pierre d'angle sur laquelle il ne pouvait pas revenir, parce qu'il y avait eu cette expérience d'enfance.
Dans la guerre de 1914, où j'ai vu à Arras, j'ai vu mourir à côté de moi, et à 10 ans et demi, j'ai commencer à dire que la guerre était un massacre, simplement. Et non pas le drapeau, la gloire, la patrie, non. C'était d'abord un massacre qui fallait donc s'opposer à toutes les guerres.
Vous écoutez La Marche du Monde, nous brossons le portrait de René Dumont, père de l'écologie politique, avec son biographe que nous rencontrons ici en Auvergne. Jean-Paul Besset, merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Est-ce que c'est la fréquentation de René Dumont qui fait qu'aujourd'hui vous vivez dans les montagnes, dans une petite maison, et que vous êtes obligé de retirer la neige à la pelle tous les matins ?
Sans doute pas seulement, parce que je crois que, et c'est pour ça que je me suis bien entendu avec René, c'est que je partageais avec lui un sentiment de la nature, comme on dit. On se sent des mêmes origines également, moi aussi, dans ma famille, c'était des origines paysannes. On se sent bien sous un arbre ou au milieu d'un pré, pour des raisons qui ne s'expliquent pas.
René Dumont, donc pacifiste, enfant de la Première Guerre mondiale, qui va refuser de faire son service militaire et de faire la Seconde Guerre mondiale. Et un René Dumont qui va participer après-guerre à la reconstruction de la France. Il va se retrouver dans le cabinet de Jean Monnet pour préparer la reconstruction de la France. Alors, est-ce que c'est son entrée en politique ? Ou est-ce qu'au fond, c'est un technicien à ce moment-là ?
Il est perçu par les responsables de la planification en France, on appelait ça le plan, hein. Jean Monnet dirigeait le plan en France. À la sortie de la guerre, il fallait tout reconstruire. Et la priorité des priorités, c'était de redonner à manger à tout le monde, retrouver une base alimentaire pour les 40 millions de Français qui existaient à cette époque-là, dans ces eaux-là. Donc il lui est proposé de prendre en charge tout ce secteur agricole au nom de ses capacités, de sa force de travail, de sa passion aussi, qu'on connaît. Mais en même temps, René Dumont est un indépendant. Il tient à son indépendance plus qu'à tout. Et c'est pour ça qu'il a été fonctionnaire à l'agro-prof de l'enseignement supérieur si longtemps. C'est pour être libre. Libre d'aller et venir dans ses voyages. Libre d'écrire ceci ou cela. C'est pour ça qu'il n'a participé, il n'a jamais participé à aucun parti politique. Il était très engagé politiquement, très très engagé depuis le début. C'était un socialisme de l'autre siècle, cette fois du 19e siècle, très influencé par les idées libertaires et anarchistes.
Eh bien, c'est une loi générale de civilisation que la réduction du nombre de populations rurales avec le degré d'équipement. J'ai vécu en Chine où plus de 80% de la population se consacre à l'agriculture avec un niveau de vie très bas. Et je suis allé aux États-Unis où 16% de la population active dans l'agriculture suffisent non seulement à nourrir très largement la population rurale et urbaine, mais à un volume d'exportation dont nous avons apprécié récemment l'importance. J'estime que la production agricole française sera accrue si une part des paysans sous-productifs des régions congestionnées de l'Ouest, et j'ai vu des petites fermes de Saint-Marie-de-Ré, où deux hommes travaillent 2 hectares et ont une productivité insuffisante, sera accrue si l'un de ces deux hommes part à l'usine de tracteurs et de matériel agricole, fournir à l'autre un matériel grâce auquel celui qui reste cultivera une surface plus grande, mieux, plus intensivement, et par conséquent permettra à la France de contribuer plus largement au ravitaillement de l'Europe occidentale, qui ne peut plus se nourrir avec des dollars, puisqu'elle n'a pas de dollars.
Jean-Paul Bessé, vous qui êtes le biographe de René Dumont, c'est quand même assez drôle d'envisager le discours de René Dumont vu d'aujourd'hui, puisqu'il restera dans l'histoire finalement comme le père de l'écologie politique. Et on est en train de comprendre qu'il a été, au fond, le chantre de l'agriculture intensive en France, avec pour modèle les États-Unis.
Oui, c'est le paradoxe. Ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe de vie.
Ça.
Les temps ont changé. Au sortir de la guerre... Qui aurait pu imaginer que le climat allait changer? L'effet de serre, personne n'en parlait. Le baril de pétrole était à 12 dollars. Il est monté à 100 depuis, il est redescendu à 50 ou 60. Tout s'est bouleversé. René Dumont avait, au sortir de la guerre, une obsession qui a été toujours l'obsession fondamentale de son existence, nourrir les gens. Donc pour nourrir les gens, il fallait forcer la nature à produire. Parce que la nature, elle ne produit pas spontanément. Il y a des arbres qui poussent, il y a de l'herbe qui pousse, mais ce n'est pas obligatoirement les bons arbres ou la bonne herbe. Donc il faut mettre des intrants, il faut faire de l'irrigation, il faut cultiver d'une certaine manière, etc. Tout ça. Donc il est parti à fond là-dessus. Et il était fasciné par le progrès technique. Il est allé spécialement aux États-Unis voir les tracteurs qui faisaient des sillons d'un kilomètre de long. Ça le fascinait parce qu'il en voyait toutes les conséquences du point de vue de la production. Pour les gens, parce qu'il fallait nourrir les gens. Et dans sa tête, nourrir, c'était pas seulement nourrir la France, c'était pas seulement nourrir l'Europe, c'était nourrir la planète, nourrir tous ces affamés de ce qu'il appelait le tiers-monde.
Et au-delà du plan Monnet, il va d'ailleurs continuer à travailler pendant plusieurs années sur ces questions, l'intensification de l'agriculture française.
Mais au fur et à mesure de ses déplacements, et rares sont les pays du monde où René Dumont n'a pas mis les pieds, il a vu que les conditions... matériel, les conditions, les racines de la production, à savoir la nature, les équilibres naturels, les ressources, commençaient à s'effondrer sous le choc du mode de développement qui s'était emparé du monde, en particulier de l'Occident et des grandes métropoles du tiers-monde. Il a vu cette contradiction entre la nécessité de nourrir le plus grand nombre et une démographie galopante à son époque. On était à des taux de croissance démographique de l'ordre de 3%. Ça bondissait d'ailleurs, on le voit bien le résultat aujourd'hui, même si ça s'est un petit peu calmé. Alors donc, il y avait cet aspect-là, il fallait nourrir de plus en plus de bouches, et en même temps, les conditions pour les nourrir se réduisaient, puisque les conditions écologiques n'était plus réuni. Donc tout son objectif sur la dernière ligne droite de sa vie, c'était de réconcilier ces deux contradictions-là, de trouver une synthèse entre la nécessité de produire des richesses et l'autre nécessité de conserver les conditions qui rendent la Terre habitable.
Écoutez la façon dont René Dumont alerte sur la question de la pollution au micro de Jacques Chancel dans Radioscopie. Nous sommes en 1977.
Si tout le monde dit qu'il y a une sécheresse, il faudrait peut-être le crier encore un peu plus fort, la sécheresse sans précédent dans l'histoire des climats en Afrique du Sud, depuis l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, l'Angola, la Mozambique, jusque même en Zambie. Eh bien, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est l'effet de serre. Ce n'est pas une sécheresse climatique, un cycle normal, non. Nous sommes en train de démolir les climats de la planète, nous sommes en train d'assassiner le tiers-monde. Chaque individu qui achète une grosse voiture est un assassin. Parce qu'il gaspille plus d'essence qu'il ne faut, et ce gaspillage d'essence aboutit à démolir le climat et à affamer le tiers-monde, et spécialement affamer l'Afrique.
La voix de René Dumont, pionnier de l'écologie politique, est dans la marche du monde, et c'est à suivre sur RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite du portrait sonore de René Dumont dans la marche du monde, premier candidat écologiste aux élections présidentielles de 1974.
Si nous continuons notre développement acharné, notre pillage du tiers-monde, notre croissance sauvage eh bien, c'est l'effondrement total de notre civilisation avant la fin de ce siècle.
Plus de 40 ans avant la COP21, René Dumont a parcouru le monde à la rencontre des paysans, mais aussi des grandes figures du XXe siècle que sont Mao, Nehru, Castro, Sékou Touré ou encore Senghor. Du nord au sud et de l'ouest en est, l'agronome conseille, mais aussi vilipende les chefs d'État sur la destruction de l'environnement, sur la croissance démographique et la famine. Pour le réalisateur Jacques Malater, le tiers-mondiste René Dumont est aujourd'hui un oublié de l'histoire. C'est le titre de la série dont il est l'auteur sur Arte. Car l'agronome, devenu économiste, n'a cessé d'interpeller et de dénoncer jusqu'à sa mort en 2001.
Un tiers-mondiste, c'est quelqu'un qui se situe par rapport à, d'une part, les États-Unis, le premier monde, par rapport à l'Union soviétique, le deuxième monde à l'époque. Un tiers-mondiste est quelqu'un qui est pour les pays en développement.
Alors ben, René Dumont, c'est vrai que c'est un tiers-mondiste, c'est vrai qu'après la guerre, il va se consacrer à la France, mais il est aussi demandé au niveau international pour faire des études agronomiques sur chaque pays. Et très vite, il va s'apercevoir, par le biais des pays du tiers-monde, que l'agriculture est tournée vers l'exportation. Et en tournant l'agriculture vers l'exportation, finalement, les paysans se trouvent appauvris et les denrées premières deviennent très chères. Donc ça va être son combat. Même chaque fois qu'un pays lui commande de venir faire une étude, d'essayer d'expliquer aux dirigeants qu'il ne faut pas tourner l'agriculture vers l'exportation, il ne faut pas appauvrir la terre, il faut d'abord nourrir son propre pays. Et effectivement, il va aller 3 fois à Cuba, à la demande de Fidel Castro. On le voit d'ailleurs derrière Castro, devant ses meetings, devant des foules immenses. Et sa technique, sa logique, c'était d'aller écouter les paysans. Il n'écoutait pas les scientifiques, il n'écoutait pas les politiques. Quand on lui demandait d'aller faire une étude, il allait sur le terrain, il allait prendre la parole des paysans parce qu'il était issu d'une famille paysanne. Et à l'issue de son étude à Cuba, où il va prendre la parole des gens de la terre, il rencontre Castro plusieurs fois, et quand il doit rendre son bilan, où on le voit en réunion, une vraie réunion comme on peut voir dans l'URSS de l'époque ou dans le Cuba de l'époque, autour de la table, quand Castro lui dit « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'agriculture de mon pays ?» René Dumont lui dit, les yeux dans les yeux, « il faudrait changer le dirigeant ». Et ça, Castro ne va pas le supporter. Et dans les 24 heures, il va lui demander de quitter le pays. Et c'est une histoire qui a marqué Castro, puisque José Bové, même quand il y retourne quelques années plus tard, et Castro sait que José Bové est porteur du discours, en tout cas écologique, que pouvait avoir René Dumont, José Bové arrive à Cuba et on va lui confisquer son discours. Et il va devoir faire une improvisation à la tribune parce que Castro a peur d'avoir René Dumont bis qui vienne encore dire que c'est lui qui gêne et non pas une politique qu'il faudrait établir pour améliorer son pays.
Il se rend compte que le modèle soviétique est en train de s'emparer de cette île et qu'au lieu de faire une agriculture au service de la population, on impose à Cuba le modèle de culture de canne à sucre, de monoculture, uniquement pour l'exportation, pour faire des devises.
Cuba produit de plus en plus cher et accroît les privations. Fidel ne se rend plus compte des difficultés car son entourage n'ose plus tout lui rapporter. Il faudrait envisager une certaine limitation de ses pouvoirs avant qu'il ne soit trop tard.
Et évidemment, ces propos qui ont été dits à l'oral et qui ont été écrits dans des rapports et transmis à Fidel Castro n'ont pas plu aux dirigeants suprêmes.
À tel point qu'en 1972, Castro lui dit « maintenant ça suffit, dehors » et il doit faire ses bagages dans les 24 heures.
Jacques Malater, à l'issue de ce travail de documentariste sur ces oubliés de l'histoire, qu'est-ce que vous avez appris au fond sur ces personnalités que vous avez voulu à nouveau mettre dans la lumière ?
Je crois que René Dumont est le bel exemple de la série Les oubliés de l'histoire parce que c'est un libertaire. C'est quelqu'un qui finalement va rentrer dans l'histoire, non pas parce qu'il veut avoir une place importante dans une logique nationale, il rentre dans l'histoire parce qu'il a quelque chose à dire, il a un combat à défendre. Donc toute sa vie, il va défendre ce combat. Il va se présenter aux élections, le premier candidat écologiste, en choquant les gens avec son verre d'eau, alors que maintenant on est en plein dans ces problématiques-là. Mais à l'issue des élections, il repart, il reprend son bâton de pèlerin et il continue sa vie. Et finalement, ces oubliés, c'est des gens qui ont vécu leur vie sans déranger le monde, ou s'ils l'ont dérangé, c'est justement parce qu'ils ne voulaient pas vivre comme les autres. Et on s'aperçoit que finalement, s'ils ont été oubliés dans notre 21e siècle, c'est parce que leurs propos d'aujourd'hui sont des propos qui défendent une vraie liberté. C'était des libertaires qui réclamaient la liberté de l'individu, qui réclamaient la liberté de parole. Et je ne sais pas si aujourd'hui, dans notre 21e siècle, apprendre à nos étudiants ces personnages-là qui finalement, au-delà de tout consensus, de tout politiquement correct, ont continué à vivre leur vie et à dire leur vérité, je ne sais pas si ça serait bien vu, puisque maintenant on essaie plutôt d'enseigner aux nos jeunes le CDI et la retraite à 60 ans.
Et nous vous retrouvons, Jean-Paul Besset, vous nous accompagnez depuis le début de cette émission, vous êtes le biographe de René Dumont, et vous avez souligné combien toute sa vie, son obsession aura été effectivement de parcourir le monde pour apporter ses compétences et pour essayer d'aider à nourrir la planète. C'est une expérience que René Dumont a mise en œuvre après-guerre, en intensifiant l'agriculture pour donner à manger aux Français puisqu'ils ont faim, et au fond, cette expérience, il va la réinvestir dans le tiers-monde à l'occasion de la décolonisation. Il est l'invité des pays souverain, mais se rend aussi de sa propre initiative dans ces nouvelles jeunes nations. Et il va beaucoup en Afrique, à l'appel de Julius Nyerere, à l'appel de Senghor, ou encore à l'appel de Sékou Touré. En fait, comment ça se passe avec ces différents pays africains ?
Il y va tout de suite. Il y va tout de suite parce que ce sont d'anciennes colonies françaises, pour la plupart. Il est évidemment très, très attaché à cette histoire politique de la France et à la dette de la France vis-à-vis de ces pays coloniaux, anciennement coloniaux. Il y va très, très spontanément, mais il découvre une réalité au lendemain des indépendances qui l'épouvante, à savoir que les élites du tiers-monde, de ces pays-là, africaines en particulier, sont formées à l'aune des critères occidentaux, à l'aune du productivisme agricole en particulier, sont dans un phénomène de mimétisme pour copier l'Occident, s'enrichir et se développer de la même façon que l'ancien colonisateur. Et là, il s'aperçoit que si les pays qui sont dans des conditions naturelles parfois plus fragiles, les sécheresses, la richesse du sol qui est moindre, l'absence d'infrastructures, et puis les phénomènes climatiques qui commencent. Et il s'aperçoit que si les Africains s'engagent et veulent rattraper l'Occident, ils vont se planter.
En 1962, René Dumont publie ce livre « L'Afrique est mal partie ». C'est un choc, et pour nombre d'Africains, ce livre est très très mal reçu.
Absolument, parce que les élites laissés par le colonisateur en Afrique, sont formés à l'image du colonisateur. Et Dumont leur dit, casse-cou, si vous prenez le même modèle que nous, vous allez à la catastrophe. D'ailleurs, c'est une phrase qu'aura Senghor sur la fin de sa vie. Il dira, je n'ai qu'un seul regret, j'aurais dû écouter Dumont. Et René Dumont lui disait, à Senghor mais à d'autres, à Nyerere, à Bourguiba, à Ben Bella, mais aussi à Fidel Castro, mais aussi à Chou En Lai, ne faites pas comme nous, inventez votre modèle en fonction de votre culture, de vos traditions, de vos savoir-faire, écoutez ce dont ont besoin les paysans, plutôt que de vous lancer dans des grandes aventures industrielles ou d'agro-industrie. Et là, de ce point de vue-là, Dumont est un prophète. Alors évidemment, il est très mal perçu, à la fois par les dirigeants de ces pays-là, comme il disait lui-même, René Dumont, on m'invitait dans un pays, j'y allais, quand j'arrivais à l'aéroport, j'avais une voiture, des motards pour me conduire dans les ministères, une fois que j'avais remis mon rapport et discuté avec les gens, je prenais l'autobus pour rentrer, parce que plus personne ne voulait me raccompagner, il s'était fâché avec tout le monde. Et il était en même temps, à cette époque-là, rejeté par les milieux de la gauche et les milieux tiers-mondistes en Europe. Il disait les choses et comme tous les gens lucides, il a été rejeté, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais ça ne le dérangeait pas. Il ne recherchait pas les honneurs, il ne recherchait pas une carrière, il voulait dire les choses. Et en fait, dans cette époque-là, les années 60, les années de la décolonisation, il était déjà écologiste.
On m'a offert de me présenter comme député en 1936. J'ai refusé, il n'y a pas de doute, et je n'ai jamais regretté d'avoir refusé. Mais se battre sur le terrain politique, notamment avec la télévision, qui est un nouvel outil quand même, est extrêmement puissant. Alors là, non, je n'ai pas refusé.
Accepte d'être le candidat des écologistes. On est en 1974. Mais Jean-Paul Besset, au fond, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, René Dumont, dans cette histoire, puisqu'on l'entend dans cette archive sonore? Il parle des médias, il parle de la télévision. Est-ce qu'il cherche finalement une tribune pour faire entendre sa cause?
Bien sûr, le témoignage. Faire entendre la voix des sans-voix. C'était ça, son... Quand il revenait en Europe, quand il revenait à Paris, il n'avait d'autre préoccupation que de faire connaître ce qu'il avait vu ailleurs. Donc, pour lui, la campagne présidentielle n'a été qu'une occasion inespérée, il n'y pensait pas du tout, inespérée de faire entendre sa voix, d'aller vers les caméras. D'ailleurs, la seule condition qu'il a fixée à Brice Lalonde et à un de ses copains qui était avec lui, c'était de leur dire, bon, ok, sur les questions écologiques, évidemment, mais je pose une condition, je veux pouvoir parler du tiers-monde. Je veux pouvoir parler des affamés, des damnés de la terre. Voilà. C'était l'obsession permanente, nourrir les gens.
Les écologistes, à l'époque, font un coup médiatique en choisissant René Dumont.
Je ne sais pas.
Parce qu'il
a l'art
de se mettre en scène. Il arrive avec des pulls verts rouges, il roule en bicyclette. C'est une grande gueule.
Vous savez, le pull vert rouge, c'est très drôle. Parce qu'on s'est habitué à l'image du vieux professeur Dumont sous sa crinière blanche et avec son pull vert rouge. Ça, c'est pas un choix politique de sa part. Comme ça, un soir à la télévision où il doit passer, il arrive avec son pull vert et le technicien lui dit avec votre pull vert, là, on va pas vous voir et tout, changez de pull vert. Il dit bon, ouais, ben alors quel pull vert? Ben prenez le mien. Il se trouve que le technicien avait un pull vert rouge. Il a mis le pull vert rouge du technicien.
Il ne l'a pas quitté.
Et il ne l'a pas quitté. Et après, il disait, c'est très bien, comme ça on me voit. On me voit, j'attire les regards, non pas par coquetterie, mais parce que je peux parler, je peux témoigner.
René Dumont a l'art de la parole, mais aussi de la mise en scène.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis.
Et nous sommes en 1974 et on sait combien l'eau au XXIe siècle est un problème crucial, un enjeu pour toute la planète aujourd'hui. On en a suffisamment parlé lors de la COP21.
Absolument. Et là, le raccourci que fait René Dumont est un acte, peut-être le premier acte de communication moderne à la télévision. Il y va direct, il boit un verre d'eau, ce qui est tout bête, devant les gens en disant « Vous voyez ce que je bois là ? On risque d'aller vers la fin. » Et il dit ça, personne ne le croit vraiment à cette époque-là. Mais en même temps, on est un peu ébranlé parce que là, il y a un aspect très, très direct pour les gens. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'était pas des fadaises.
Parlons-en justement. Il utilise cet espace médiatique que lui donne cette campagne présidentielle de 1974 pour faire entendre ses idées. Il a l'art aussi de la mise en scène. Il a l'art de la communication politique, pour ne pas la citer. Donc, il parle de l'eau, mais il parle aussi de la surconsommation de la viande. Il parle du gaspillage du pétrole. Quels sont ses thèmes? Quel est son programme, au fond?
Mais là, son programme est écologique. Économie. Économie d'énergie, économie de ressources, économie, changement de mode de consommation, et non pas de fuite en avant dans une croissance du toujours plus, etc. À la fin de sa vie, René Dumont, dans son parcours, remettait en cause la croissance, le concept même de croissance, alors qu'il avait été un des plus grands outils, un des meilleurs outils pour l'augmentation de cette croissance. Lui, toujours dans sa tête avec l'idée de toujours mieux la partager, de mieux la répartir, mais toujours plus de croissance. Et là, c'est un changement fondamental. Parce qu'il s'est rendu compte avant tout le monde, aujourd'hui c'est presque une banalité de le dire, puisque tout le monde a intégré la contrainte écologique dans sa vision du monde. Mais à cette époque-là, c'était d'être d'avant-garde, une fois de plus.
Alors ce qui est intéressant effectivement, c'est qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Ce qui nous semble aujourd'hui des causes nobles et évidentes, auxquelles d'ailleurs de plus en plus les opinions publiques adhèrent, à l'époque, semble totalement farfelu. On le prend pour un doux rêveur, on le prend pour un emmerdeur, on le prend pour un utopiste, on le prend pour un professeur tournesol. Comment il est reçu, du moins, à l'époque? Parce qu'il fait un score minable au présidentiel.
Il fait un score d'un 1,3 ou 4%.
Comment est-il reçu à l'époque?
Il est à la fois reçu, comme vous le dites, comme un farfelu. Mais en même temps, il a un certain âge, il a de l'expérience, il a de l'allure, il a une prestance, on connaît un peu sa vie, ses aventures, on sait que c'est un homme de terrain, on sait que c'est un homme de science. Il éveille quelque chose, il éveille une question qui commence à s'insinuer dans les cervelles et dans les consciences des uns et des autres. Il est de ce point de vue-là un précurseur, à nouveau un prophète, hors de tout aspect religieux.
Jean-Paul Besset, nous l'avons compris, toute sa vie, René Dumont a souhaité parcourir le monde. On l'a dit, anticolonialiste, on l'a dit, pacifiste, on l'a dit, tiers-mondiste, et vous vous ajoutez féministe.
Oui.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte, toujours pareil, l'expérience. Il s'est aperçu dans les pays du tiers-monde, on appelait ça le tiers-monde à cette époque-là, c'est-à-dire dans les pays du Sud, il s'est aperçu que le travail des femmes était essentiel et qu'il fallait parler avec les femmes du point de vue de l'agriculture, mais du point de vue également de toute la structure de la société, des équilibres, des rapports entre les hommes et les femmes. Voilà, il était en particulier pour une restriction très ferme des naissances, parce qu'il savait que pour les femmes du tiers-monde, c'était une charge considérable.
Si chaque famille à partir d'aujourd'hui se contente d'un enfant, on arrivera à une diminution de la population. C'est fait en France, c'est fait en Allemagne de l'Est, c'est fait en Allemagne de l'Ouest. Donc ce n'est pas impossible à réaliser.
Mais où est la liberté alors?
Ouais, mais la liberté existe en France et en Allemagne, et les Françaises et les Allemandes ont décidé d'avoir moins d'enfants. C'est pas moi qui ai...
Vous n'avez qu'un enfant, vous?
Je n'ai qu'une fille, mais ce n'est pas moi
vous qui... Vous l'avez souhaité, un seul seulement, déjà?
Déjà, naturellement. Je vous dis, mon premier livre soulignait la gravité de la surpopulation. Par conséquent, j'avais des responsabilités à prendre, et je les ai prises. Mais ceci, cette réduction de la population n'exige pas de guerre, elle exige simplement une réduction de la natalité, et je vous dis, simplement la généralisation de ce qui se passe actuellement, donc c'est pas une utopie.
Alors comment René Dumont s'inscrit-il dans l'histoire de la pensée écologique? J'ai posé la question au philosophe Dominique Bourg.
Une place assez particulière. René Dumont, c'est plus un médiateur, si vous voulez, qu'un pourvoyeur vraiment d'idées écologiques. C'est son idée d'un homme nouveau. Ça me paraît très très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui est né avant-guerre, c'est quelqu'un qui est né avant le consumérisme fou qu'on va connaître à partir à la fin des années 50, grosso modo, pour un pays comme la France. Et c'est quelqu'un qui n'est jamais rentré là-dedans, et qui en voit vraiment les dégâts, et il l'énonce très très clairement, et ça il a absolument raison. Si on veut effectivement revenir à l'intérieur de ce qu'on n'appelait pas à l'époque les limites planétaires, il faut un type anthropologique, enfin nouveau par certains côtés, mais je dis bien par certains côtés, parce que le consumérisme a créé un type anthropologique qui est très très récent. C'est vraiment un nouveau rapport au monde sur un ancrage anthropologique renouvelé. Ça c'est quelque chose que René Dumont a vu et a bien pointé du doigt.
Dominique Bourg, lorsque vous parlez de la vision utopique de René Dumont, que vous formulez en reprenant ces mots, en parlant de l'homme nouveau, est-ce que vous faites référence à l'homme nouveau au sens socialiste et 20e siècle du terme?
Alors, l'idée d'homme nouveau chez René Dumont, je ne pense pas qu'on puisse simplement comme ça la connecter, enfin, en tout cas pas simplement avec ce qu'a été le marxisme. C'est quelqu'un qui a quand même pris quelques distances par rapport à ça, pour lui, ce qu'on appelle alors à l'époque le soviétisme, ça ne le remplit pas d'enthousiasme. En revanche, il y a une naïveté chez lui tiers-mondiste, et il a cru que précisément la Chine, Cuba, etc., allaient déboucher sur un type anthropologique nouveau qui ne serait pas un type consumériste. Et là, on voit très bien que d'une part, c'est absolument pas le cas. Sur quoi ça a débouché, c'est pas forcément génial, et au contraire, ça a préparé une espèce de consumérisme effréné, comme on le voit en Chine aujourd'hui. Mais encore une fois, là où l'intuition est juste, c'est que effectivement, on nous a modelé avec le consumérisme, et en sortir, ça suppose une espèce de renouvellement anthropologique. Et moi, je rajouterais quelque chose qui n'est pas chez lui, si vous voulez, mais qui est vraiment important. Ce dont on aurait besoin aujourd'hui, ben, c'est une sorte d'individu qui saurait faire le lien entre chacun de nos gestes et le fait qu'aujourd'hui, bien, pratiquement 7 milliards et demi d'autres êtres humains peuvent le faire, plus tard 9, peut-être 10, et qu'effectivement, ça change complètement la donne. Donc, il faut se mettre en relation avec la totalité de l'humanité. Alors, lui, il voit ça sous l'aspect aussi démographique. Hein. C'est quelqu'un qui insiste vraiment sur l'aspect démographique. On le met plus en silence aujourd'hui, ce qui n'est pas juste, hein, parce que vous avez deux dégradations vraiment systémiques, l'une sur le climat et les flux de matière et d'énergie d'un côté, et l'autre, en fait, nos impacts sur la biodiversité, qui est absolument et directement connecté au nombre d'êtres humains sur Terre. Donc c'est un peu ces deux points forts, si vous voulez, l'homme nouveau et puis l'attention à la dérive démographique. Et 40 ans après, je suis vraiment désolé, mais on ne peut que lui donner raison sur ce plan-là.
Et je vous propose d'écouter la voix de René Dumont. Il préfère Malthus à Marx et il l'affirme en 1975.
Je préfère Malthus à Marx, c'est bien évident. Marx ne s'est pas bien rendu compte d'ailleurs de la situation qui allait se dérouler quand Marx a parlé au moment du manifeste communiste 1848. Il y avait 1 milliard d'hommes à la surface du globe. Et jamais Marx, dans ses écrits, n'a prévu qu'un bon siècle après, on serait 4 fois plus nombreux, 4 milliards, et qu'on irait un jour à 12 milliards. Donc Marx a pu, impunément, parler de l'extrême abondance des biens pour tout le monde. D'ailleurs, Marx était un Européen. Dans le fond, il pensait l'abondance pour tous les Européens. Il ne pensait pas assez aux populations coloniales. Malthus, lui, a annoncé la fin dans le monde. Et hélas, si Malthus n'a pas eu raison pour les pays européens, il a raison maintenant à l'échelle mondiale, puisque la faim se généralise dans l'ensemble du tiers-monde.
De quel principe malthusien René Dumont s'est-il inspiré, Dominique Bourg ?
Tout simplement des capacités, si vous voulez, de la Terre à nourrir l'humanité. Alors, de son temps, l'idée n'existait pas, mais on a l'idée d'empreinte écologique, par exemple, hein, qui vient totalement confirmer ce que dit là René Dumont. Et on voit bien qu'avec René Dumont, justement, on a quand même affaire à quelqu'un qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la pensée écologique. Cet extrait là que vous redonnez sur les relations Marx-Malthus est assez extraordinaire. Là, on a vraiment le point de rupture entre une pensée productiviste marxiste pour laquelle, si vous voulez, il n'y a absolument aucune limite à l'expansion du genre humain, aucune limite au progrès des techniques, alors que la pensée écologique, c'est au contraire une pensée qui va mettre l'accent sur les limites du système Terre d'un côté, et puis aussi les limites dans nos capacités d'invention technique. Les techniques s'appuient sur les lois de la nature, elles ne peuvent pas s'émanciper et nous permettre de nous émanciper en tout point de la nature. Et ça reste le point de rupture fort entre, si vous voulez, une pensée moderne, si l'on veut, moderniste, et puis ce qui advient avec la pensée écologique, dont effectivement le début apparaît avec Malthus, d'une certaine manière.
Pacifiste, socialiste, tiers-mondiste, féministe, lanceur d'alerte, quel héritage nous laisse René Dumont, selon vous, qui êtes son biographe, Jean-Paul Besset ?
C'est un agroécologue. Tout son itinéraire, toute son expérience aboutit à cette vision de l'agriculture, et au-delà de l'agriculture, de la production et de l'économie, de tenir compte des ressources naturelles. De ne pas croire que le progrès scientifique, les nouvelles technologies permettront d'avancer toujours plus loin, toujours plus avant, etc. Tout ça. René Dumont aurait pu faire une école. Il y avait beaucoup de jeunes agronomes qui le suivaient, en particulier dans le tiers-monde. Beaucoup de gens attentifs à son parcours et à ce qu'il disait, mais il n'a jamais voulu formaliser ça parce que ça, il supportait pas. Il supportait pas d'avoir des fans, un fan club. Mais son aboutissement, c'était le changement de regard sur le monde, le changement de civilisation. Il serait parfaitement en phase aujourd'hui avec le discours écologiste, parfaitement en phase. Tout ce qui l'animait dans la vie, tout ce qui le propulsait en avant, c'était d'aller voir les choses sur le terrain et d'affronter la réalité.
Est-ce que lanceur d'alerte, finalement, c'est un qualificatif qui
pourrait lui convenir ? Je pense que c'est un qualificatif qui lui convient très bien, mais j'y rajouterais également un thérapeute. Il avançait des solutions. Il ne faisait pas que dénoncer, ça, il savait y faire, il savait le mettre en scène, mais en même temps, il avançait des solutions.
Sa plus grande réussite.
Sa plus grande réussite, elle est, pour moi, elle est dans ce travail sur lui-même qu'il était capable de faire. Cette capacité, non pas à tourner la page, mais à continuer le livre, à continuer à avancer en fonction des réalités. Ne pas faire une carrière à partir de ce qu'il était devenu, ce qu'il savait, qui était déjà beaucoup, mais toujours remettre en cause ce qu'il était par rapport aux réalités qu'il découvrait.
Merci Jean-Paul Bossé.
J'attends. Ouais, ok. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient assises, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois allé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends.
René Dumont, pionnier de l'écologie politique, c'était une marche du monde réalisée par Elliot Bourrel avec Sophie Janin et les archives INA et de RFI. Un grand merci à Cécile Rogue. Au générique de cet épisode, Jean-Paul Bessé pour sa biographie de René Dumont, éditions Les Petits Matins, Jacques Malater pour sa série sur Arte, Les Oubliés de l'Histoire, et Dominique Bourg pour son dictionnaire de la pensée écologique aux éditions Quadrige, Dico Poche. Alors on se retrouve sur notre page Facebook, vos réactions sont toujours les bienvenues et n'oubliez pas de consulter notre page La Marche du Monde sur RFI.fr. Vous retrouverez toutes les informations concernant les livres et les liens internet au sujet de cette émission. Écrivez-nous, podcastez, cette émission c'est la vôtre.
J'attends.